chemin de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Eh bien, nous continuons à parcourir, à feuilleter votre livre Les chemins de la sagesse, publié aux éditions BOD, disponible dès que vous le demandez auprès d'un libraire, même dès que vous allez sur le site internet de BOD.
Absolument, absolument. Voilà, c'est donc le chapitre concentration qui nous occupe.
Hein. Oui.
La dernière fois, nous avions dit qu'il fallait toujours être à ce que l'on fait, hein, ne pas être ailleurs, hein, pas être cette âme absente occupée aux enfers dont parle Valérie dans La Rêveuse. Hein. Bon, donc, c'est une formule banale, soyez à ce que vous faites, hein, mais ça peut résumer une forme extrême que peut prendre la sagesse. Alors, au Japon, par exemple, on sait que le maître Zen, c'est le bouddhisme japonais, pratique ce qu'on appelle le koan, K-O-A-N. C'est un exercice qui consiste, devant les questions du disciple, à répondre résolument à côté, de façon à ce que le disciple voit l'inutilité absolue du langage par rapport à l'expérience ultime qui est d'un tout autre ordre et qui échappe à tous les mots. Ainsi, quand le disciple demande « Où est Bouddha ?», eh bien, le maître peut lui répondre « Quand je mange, je mange. Hein ». C'est donc une tautologie triviale qui semble à mille lieu de ce qu'on pourrait attendre comme réponse, en fait, d'expérience ultime. C'est que l'expérience ultime est objet de vie et non pas de spéculation langagière. D'ailleurs, Lao Tzu, dans son Tao Te Ching, nous dit aussi que l'obstacle principal à la perception du Tao, c'est-à-dire de la voix, c'est le langage. Hein. Alors, en voyant l'inutilité radicale de sa question, le disciple peut accéder à l'éveil. Bouddhisme signifie éveil. Bouddha, c'est éveillé. Hein. Mais alors, ce discours déceptif du maître au disciple n'a pas seulement pour but de délivrer l'esprit de son carcan langagier. En l'occurrence, une formule comme « quand je mange » peut inviter le disciple à se concentrer sur l'instant présent, toute opération mentale autre étant abolie, à ne faire que ce qu'il fait et ne faire qu'un avec ce qu'il fait. Alors on retrouve la vertu spirituelle capitale, majeure de la concentration. Et alors, il n'est point besoin d'aller chercher en Extrême-Orient ce thème. Hein. Chez nous aussi, Montaigne, dont j'ai dit à l'émission précédente que c'était un grand sage qui nous appartient, il a formulé la même chose dans le livre 3 des Essais. « Quand je danse, je danse. Quand je dors. Hein. » Il y a là un fond commun de sagesse qui est basé sur la perception d'une présence pure à laquelle peut donner accès la méditation. Alors la méditation permet de délivrer l'esprit des pensées parasites qui, comme des milliers de souris, viennent grignoter l'esprit dès que l'on se réveille le matin. Moi, je suis effrayé quand je me réveille le matin. Aussitôt, toutes ces petites souris ou ces petits vers, en quelque sorte, viennent parasiter mon âme. Hein, et c'est ce que l'on appelle le mental. Hein. Bon, en Inde, on dit « si ton mental vit, tu meurs. Si ton mental meurs, tu vis. Hein, voyez les livres d'Arnaud Desjardins sur la sagesse indienne. Il paraît, voyez Guylaine, que nous avons comme visiteuse quelque chose comme 60 000 pensées par jour. C'est énorme, hein, 60 000 pensées.
Comment gérer tout cela ?
Exactement. Est-ce qu'elles nous constituent, ces pensées, ou bien est-ce qu'elles viennent nous assiéger malgré nous ? Moi, je suis plutôt du deuxième avis.
Hein. Ouais.
Du deuxième cas. Alors, la maxime de Descartes que l'on cite toujours, je pense, donc je suis, elle n'est pas toujours vraie. Hein. Valérie l'a contestée, fort opportunément. Pour lui, la pensée était un défaut dans la plénitude de l'être, le ver dans le fruit. Hein. Il écrit dans le cimetière marin, le vrai rongeur, le ver irréfutable, n'est point pour vous qui dormez sous la table, il vit de vie et ne me quitte pas. Alors, il s'adresse aux morts, vous, les morts, la table tabou. Là, c'est la dalle du tombeau. Hein. Bon, alors ce vers, c'est la pensée. Mmh. Hein. Ou comme disent les sages de l'Orient, et comme j'ai rappelé cela au chapitre projection de mon livre, le mental. Donc, si Descartes disait « je pense, donc je suis », on peut dire au contraire « je ne suis pas ce que je pense ». Comprenons que nous ne sommes pas toujours nos propres pensées, que notre vrai moi n'est pas toujours en elle. Aussi, ne nous confondons pas avec nos pensées. Tâchons de les voir de l'extérieur, d'assister comme les spectateurs d'un théâtre à leur venue, à leur apparition, puis à leur disparition, un peu comme si nous suivions du regard les nuages poussés par le vent sur un fond de ciel bleu. Et à la fin restera immaculé ce bleu du ciel, image du vide dont j'ai déjà parlé lors des émissions précédentes, hein. Et pour le vide sont nos plus profonds regards. Ça, c'est une phrase aussi de Paul Valéry. Alors, déployer sur le fond du vide la perception du moment présent, de ses moindres qualités, de ses moindres harmoniques, débarrassée de tout le reste par la concentration, elle n'en aura que plus d'acuité. Alors, la méditation, c'est absolument le contraire de la somnolence, hein. C'est le contraire. Si elle doit ou si elle peut déboucher sur le vide, elle va commencer par une extrême attention à toutes les données sensorielles qui se manifestent hic et nunc, ici et maintenant. Ces données avec lesquelles l'esprit peut ne faire qu'un. Hein. Alors certains disent que le mieux est de méditer dans le silence. Je pense au livre de Krishnamurti qui s'appelle La Révolution du Silence, qui est édité en poche, en stock plus je crois. Hein. Bon. Mais c'est pas obligatoire. Par exemple, s'il y a beaucoup de bruit autour de nous, que devons-nous faire? Nous devons nous attacher à les discriminer l'un à un, à bien les distinguer, bien les déterminer, bien voir où est leur origine. Ça sera la circulation, les voitures, ça sera les bruits de voisinage, etc. Et alors, dans l'écoute même du monde, on est vraiment présent à soi. Et l'homme se situe alors, comme le dit de façon excellente Paul Valéry, dans le cimetière marin toujours, entre le vide et l'événement pur. Alors, je viens de parler de méditation. En Inde, la méditation s'appelle, à partir d'un terme sanskrit, dhyana, hein, dhyana, D-H-Y-A-N-A. Elle est d'abord commune à l'hindouisme, c'est-à-dire à la religion traditionnelle de l'Inde, et au bouddhisme, hein, qui est né un peu plus tard en Inde. Ensuite, elle, hors de l'Inde, elle s'est répandue. Et elle a caractérisé le bouddhisme seul, et elle est devenue en Chine, d'abord le bouddhisme a émigré au Tibet et au Népal, puis il a été en Chine, et il est devenu le Chan, donc altération de dhyana, hein, et au Japon le Zen, hein, toujours en référence à ce mot sanskrit. Hein. Alors, dans la méditation, il ne s'agit pas de penser à quoi que ce soit, hein, comme dans les méditations métaphysiques de Descartes. C'est une dissertation intérieure que fait Descartes. Hein. Il ne s'agit pas non plus d'imaginer quoi que ce soit, par exemple les scènes de la Bible, les scènes sacrées, comme dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Ignace nous dit, imagine comment Jésus a pu souffrir sur la croix, imagine comment le sang a coulé, etc. Mais c'est pas ça du tout. Ce n'est pas la pensée, Descartes, ce n'est pas l'imagination, hein, de Loyola et des jésuites, hein, mais la méditation véritable consiste à s'absorber dans ce qui doit être seul présent, présence pure, présence à soi et présence au monde. Et cette absorption est appelée à partir du sanskrit samadhi. Hein. Alors, maintenant, on vient de dire, oulala, que c'est exotique tout ça. Eh bien, comme j'ai dit dans la dernière émission, je répète que cela existe chez nous. Hein. L'honnête homme n'a qu'à relire le texte de Montaigne dont je viens de parler. Hein. Et il en tirera un encouragement pour enfin, par la concentration sur ce qu'il vit ici et maintenant, revenir à lui. J'aime bien cette expression, revenir à soi. Voici ce que dit Montaigne, et c'est chapitre 13 du livre 3, pardon. « Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. » Vous voyez ? Donc si mes pensées se mettent à vagabonder, quand je marche dans le jardin, le verger, hein, je dois doucement les ramener justement à ce que je vois sous mes yeux, promenade, douceur de la solitude et à moi. Donc vous voyez, Christophe André, qui parle beaucoup de méditation actuellement, aurait pu, dans un de ses livres, citer ce texte. Hein. Donc c'est exactement ce qu'il défend, le fait de revenir à soi en écoutant ses sensations. Alors un autre thème aussi important, c'est qu'il faudrait congédier dans beaucoup de circonstances de la vie l'ambition de rapidité. fille à la mode aujourd'hui. Et là, il y a un proverbe latin sous forme d'oxymore qui dit cette, la même chose, festina lente, c'est-à-dire hâte-toi lentement. Celui, quand on veut faire trop vite les choses, on ne les fait pas bien. Et la cause, précisément, en est le manque de concentration. Alors, quels sont les animaux mascottes chez nous, Guylaine? Quels sont les animaux que nous valorisons?
Le coq.
Alors, le coq, oui, peut-être, le coq non, en France. Galous, bon, gaulois,
ouais.
Etc.
Bon, vous voulez dire en général?
Oui, en général. Quels sont les animaux? Bon, le roi
le
des
lion,
animaux.
Le
roi...
lion.
Voilà, exactement, le lion.
J'ai donné la bonne réponse.
Le roi des animaux, voilà, hein, Guylaine. Ah, le roi des animaux. Et est-ce que vous savez, Guylaine, que le lion dort la plupart du temps, hein, la plupart de la journée. Il dort
oui,
sur les 24
heures.
Ah, oui,
ouais.
On le voit toujours en train de dormir.
Absolument.
C'est la femelle, la lionne qui chasse
oui,
et
ouais,
qui
ouais.
lui procure le ouais. Dieu. Le lion dort, hein, donc on ne le sait pas assez. Alors pour nous, c'est le roi des animaux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux,
ouais,
Hugo,
ouais.
etc. Hein, bon. Alors, nous valorisons aussi l'aigle avec son regard perçant. Mais il ne viendrait à l'idée à personne chez nous de valoriser la tortue, par exemple. Et pourtant, cette lenteur de la tortue, hein, elle peut nous apporter une grande leçon.
Oui,
hein,
oui.
Dans la phase de la Fontaine,
elle
gagne contre le lièvre. Chez la Fontaine. Les grandes œuvres sont fruits de la lenteur et de la patience. Paul Valéry le disait très bien, patience, patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence et la chance d'un fruit mûr, vous voyez ? Bon, patience. Philosophiquement et même métaphysiquement, je dirais que le plus grand défaut de l'homme, c'est l'impatience. Hein. Et Kafka le souligne bien dans une maxime essentielle de ses considérations sur le péché, la souffrance, l'espérance et le vrai chemin. Voici ce que dit Kafka. « Il y a deux péchés capitaux humains dont découlent tous les autres, l'impatience et la paresse. À cause de leur impatience, ils ont été chassés du paradis, il c'est Adam et Ève, hein. Et à cause de leur paresse, ils n'y retournent pas. Mais peut-être n'y a-t-il qu'un péché capital, l'impatience. À cause de leur impatience, ils ont été chassés du paradis, à cause de leur impatience, ils n'y retournent pas. » Vous voyez ? Ça, c'est une maxime très importante, très juste, très profonde. Alors, le temps, ce n'est pas de l'argent, comme on nous le dit « time is money », etc. C'est une civilisation extravertie et pressée qui dit ça, hein. Mais le temps, c'est l'occasion de mûrissement, de maturation, hein. Et tous les jardiniers vous le diront, hein. On ne peut pas forcer la nature. Moi, quand je travaille dans mon jardin, je voudrais que les fleurs poussent plus vite, mais non. Je vois le bourgeon, chaque jour je vais le voir, il s'est pas encore ouvert, vous voyez. Donc, voilà, on ne peut pas forcer la nature. Les jardiniers sont des sages patients, vous voyez. Ils sont patients, on ne peut pas, justement. Alors, il faut prendre modèle sur eux, hein, même si cette attitude ne correspond pas au temps présent, même si elle est intempestive, c'est-à-dire contre le temps, hein. C'est Nietzsche qui parlait de considération intempestive, contre l'époque environnante. Alors, pour illustrer ce thème de la patience, j'ai choisi une très belle chanson de Jacques Douai qui s'appelle précisément « Chanson de la patience ».
Laisse au temps le temps de jouer, c'est le maître et le souverain. Laisse au temps le temps de jouer, patience, patience. Il semble aujourd'hui dénoué, il semble aujourd'hui dénoué ce qu'il réunira demain. Patience, patience. Où es-tu, m'entends-tu? Mon cœur, tu t'éloignes. Où es-tu, m'entends-tu? Que nos cœurs se joignent. Le temps défait les jours, jour et nuit sont infidèles. Mais le temps garde mon amour. Mon amour te sera fidèle. Laisse au temps le temps de jouer, c'est le maître et le souverain. Laisse au temps le temps de jouer, patience, patience. Il semble aujourd'hui dénoué, il semble aujourd'hui dénoué ce qu'il réunira demain. Patience, patience. ton navire est perdu, la mer est profonde, les marins disparus font le tour du monde, le temps défait le jour, l'espérance est infidèle, mais le temps garde mon amour, je suis fidèle.
Jacques Douai, pour illustrer la patience, un thème et la concentration, la patience que vous développez ici.
Oui, éviter cette impatience. Et il y a ici une méthode à conseiller que j'appellerai la méthode des petits pas. Si on se fixe trop sur le but final à atteindre, s'il apparaît trop important ce but final, on peut se décourager. En montagne, par exemple, tous les ans, je vais dans les Pyrénées, la région de Font-Romeu, et il m'arrive de faire des cols. À 2500 mètres ou 2000. Quand je suis en bas à 2000 mètres, eh bien, quand je regarde le haut du col, je vais être découragé. Donc, quand on fait l'ascension d'un sommet, il ne faut pas le regarder de loin car il paraît écrasant, inaccessible. Hein. Il faut regarder tout devant soi, éventuellement regarder ses pieds, ses chaussures et mesurer non pas la distance qui nous sépare du sommet, mais simplement l'arpentage de chacun de nos pas. Et ainsi, une fois que nous serons arrivés au sommet marche après marche, pas après pas, nous aurons une agréable surprise et une impression gratifiante de facilité. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous êtes randonneuse, sûrement, peut-être.
Je le suis un peu.
Voilà.
Donc, mais je partage tout à fait cet avis.
Voilà, oui. Si on vous regarde trop loin, on s'arrête.
C'est fini, on
s'arrête. On n'y arrivera pas. On se dit, voilà, alors bon, regardons ce que nous avons fait. Progressons petit à petit, step by step, comme on dit en anglais, pas après pas. Hein. Bon, alors pareillement, il suffit chaque jour de noter mentalement ce qu'on a fait, de le récapituler. Pourquoi pas tous les soirs, à l'occasion de ce qu'on appelait autrefois un examen de conscience, hein. Alors, chaque jour, le soir, on se pose, on se dit qu'est-ce que j'ai gagné? C'est un gain vespéral et quotidien, et cela va nous encourager, tandis que si on se projette constamment dans un but éloigné, cela va nous enlever l'espoir, vous voyez, hein. Alors on peut se dire aujourd'hui, voilà, j'ai vu telle fleur qui s'ouvrait, comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon jardin. Bon, c'est un petit gain, voilà, hein. Puis j'ai rencontré telle personne qui m'a souri, c'est un petit gain. Donc il faudrait que tous les soirs, mentalement, on se remémore justement tous ces
disciplines.
Tous ces petits pas que l'on a fait dans la journée.
Oui. Hein.
Et de ce point de vue, on serait rasséréné, on pourrait mieux s'endormir. Hein. L'examen de conscience, on en parlait autrefois.
Ouais.
C'est bien loin tout ça, c'est des vieilles lunes. Hein, l'examen de conscience du soir. Mais il y a une vertu psychologique importante. Hein. La patience, elle est toujours salvatrice. Hein. Et La Fontaine le dit bien à la fin de sa fable, le lion et le rat. Hein. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, vous voyez. Donc le rat, à force de grignoter le piège, le filet dans lequel le lion, est prisonnier, eh bien, il délivre le lion. Pourtant, le rat est un tout petit animal, si vous voulez. Hein. Bon, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, il faut s'appliquer à ce qui est à notre portée, aux petites choses. Un jour, peut-être, nous atteindrons les grandes. Par exemple, il y a les maximes de La Rochefoucauld me semble problématique parce qu'on peut les retourner. Quand il dit « ceux qui s'appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes », on peut l'inverser. Hein. En commençant le livre, en début du livre, j'ai inversé les proverbes et ça me semble intéressant. On peut dire « ceux qui ne s'appliquent pas assez aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes ». On pourrait se dire avec Beckett, par exemple, « se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Alors, il faudrait faire attention aux moindres choses que nous faisons. Les considérer même comme extraordinaires, comme importantes. Hein. Par exemple, balayer, faire la vaisselle. Si on s'y absorbe et si on s'y concentre, peuvent procurer ce qu'on appelle dans le zen le satori, c'est-à-dire l'illumination. Il y a des riens qui sont le tout et qui résument le tout. Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu est présent jusque dans le fond des casseroles », vous voyez. Ça veut dire que rien n'est méprisable. Et ce serait ici la revanche de la pauvre Marthe de l'Évangile, que j'ai condamnée un peu injustement au chapitre « Non-agir » de mon livre. Elle passait son temps à épousseter et balayer. Au fond, en y réfléchissant, je dirais que balayer n'est pas méprisable, à condition de bien se concentrer sur les moindres gestes qu'on y fait. Parce que si on balaye avec l'esprit qui bat la campagne, comme on dit, c'est pas une bonne chose. Il faut se balayer en se concentrant, hein. Et en balayant méticuleusement et avec attention un espace donné, on peut voir par la même occasion que c'est en soi, c'est dans l'esprit qu'il faut faire du rangement. Et ainsi, on peut être encouragé à une mise en ordre plus profonde. Il importe beaucoup de ranger son intérieur, dans les deux sens du mot. L'intérieur, c'est la pièce où on se trouve, et l'intérieur de soi, si vous voulez, hein. Donc, il n'y a rien de méprisable. Je pense que chaque geste que nous faisons peut nous ouvrir sur l'éternité, sur l'infini de l'éternité. Je pense aux plaisirs indicibles qui peuvent ouvrir des perspectives insoupçonnées dont parle par exemple Francis Ponge, très grand poète Francis Ponge. Alors dans mon livre j'ai mis une anthologie poétique pour illustrer de façon concrète ce que le livre dit abstraitement. Voici par exemple le plaisir qu'on peut avoir à ouvrir une porte, hein Guylaine. Enfin, ça ne vous viendrait pas à l'esprit de dire bon,
c'est banal.
C'est banal. Eh bien, voici ce qu'il dit, les plaisirs de la porte. Dans le parti pris des choses, les rois ne touchent pas aux portes. C'est vrai, les rois, ils ont des appariteurs, des chambellans qui ouvrent les portes. Oui. Les rois ne touchent pas aux portes. Ils ne connaissent pas ce bonheur. Pousser devant soi avec douceur ou rudesse l'un de ces grands panneaux familiers, se retourner vers lui pour le remettre en place, tenir dans ses bras une porte, vous voyez ? Le bonheur d'empoigner au ventre, par son nœud de porcelaine, la poignée, l'un de ces hauts obstacles d'une pièce, ce corps à corps rapide par lequel un instant la marche retenue, l'œil s'ouvre et le corps tout entier s'accommode à son nouvel appartement. D'une main amicale, il la retient encore, avant de la repousser décidément et sans clore, ce dont le déclic du ressort puissant mais bien huilé agréablement l'assure. Vous voyez ?
Oui.
Donc il viendrait à l'idée de personne de dire « Bon, cette banalité, il faut pas s'y concentrer. » Et si, pourtant. Alors il faut noter que Ponge est plein d'humour, c'est un poète d'un grand humour qui nous invite à nous concentrer. Par exemple, peler une pomme de terre, hein, Guylaine, peler une pomme de terre, pour vous, c'est banal.
Ça évoque l'ennui.
Alors, ça évoque l'ennui, on pèle la pomme de terre en écoutant la radio ou en regardant la télévision, en pensant à autre chose. Mais non. Voilà, la pomme de terre. Voici comment Ponge la caractérise. Peler une pomme de terre bouillie de bonne qualité est un plaisir de choix. Entre le gras du pouce et la pointe du couteau, tenu par les autres doigts de la même main, on saisit, après l'avoir incisé par l'une de ses lèvres ce rêche et fin papier, que l'on tire à soi pour le détacher de la chair appétissante du tubercule. L'opération facile laisse, quand on a réussi à la parfaire sans y reprendre à trop de fois, une impression de satisfaction indicible. Vous voyez, satisfaction. Le léger bruit que font les tissus en se décollant est doux à l'oreille et la découverte de la pulpe comestible réjouissante. Il semble à reconnaître la perfection du fruit nu, sa différence, sa ressemblance, sa surprise et la facilité de l'opération, que l'on ait accompli là quelque chose de juste, dès longtemps prévu et souhaité par la nature, que l'on a eu toutefois le mérite d'exaucer. Et ça continue pendant une page que je ne vais pas lire, vous voyez. Donc, mais c'est vrai, maintenant on ne peut plus peler une pomme de terre de la même façon. Hein. On va voir exactement ce que l'on fait, donc on y trouve. Et c'est quelque chose de juste, vous voyez.
Oui.
Alors, à condition de ne pas trop s'y reprendre plusieurs fois, vous voyez. Le record serait de l'appeler une seule fois. Hein. Mais alors, on entend un petit bruit, le tout petit bruit.
Oui.
Alors, dans la suite du texte, il dit quand le bout dans la casserole, on a l'impression d'un tsunami, et que leur a fait la pomme de terre pour être, qu'elle a fait à l'eau bouillante pour être ainsi malmenée, etc. Vous voyez, tout ça. Donc, savoir justement se concentrer sur tout ce qu'on fait.
Mmh.
Au Japon, il y a ce qu'on appelle la cérémonie du thé. Hein, et maîtriser la cérémonie du thé prend de nombreuses années, et même toute une vie. Elle fait l'objet de la part des élèves de longues études. On y apprend de quelle manière ouvrir et fermer correctement les portes coulissantes, comment marcher sur le tatami, comment entrer et quitter la salle de thé, comment saluer, à qui et quand le faire, comment nettoyer, entreposer l'équipement et en prendre soin, etc. Tout est méticuleusement codé. Comme pour la pratique de la calligraphie, des arrangements floraux, la brûlure de l'encens, etc. J'en ai parlé à propos de l'ikebana, des arrangements floraux. Il n'y a pas de petits détails. Négliger les plus petits détails, c'est nocif. On dit que le diable se cache dans les petits détails. En latin, diabolus in infimis la tête. Bon. Aussi, celui qui maîtrise le moindre détail, maîtrise aussi l'ensemble. Et là aussi, la concentration est essentielle. Vous voyez ? Regardez à côté combien nous avons des comportements grossiers. Par exemple, nous nous précipitons sur la tasse de thé. Mais non, avant de se précipiter sur la tasse de thé pour la boire, il faut le sentir, il faut toucher le bol, toucher la matière du bol, etc. Et nous ne voyons pas souvent, par exemple, comment un simple breuvage change complètement de nature suivant le récipient qu'il accueille. Comme le thé va demander tel bol pour être accueilli et non pas tel autre pour être dégusté. Ainsi, tel vin va nous demander pour être bu tel verre et non pas un autre. Et à cela, au rite précis que cela demande, nous devons faire attention. Mais certains chez nous sont très grossiers, ils boivent directement à la bouteille ou à la canette de coca, par exemple, ou de bière, vous voyez. C'est le comble de la déculturation et de la barbarie, vous croyez pas?
Si.
Alors que chez nous, on sait qu'un Bourgogne a besoin de tel verre, un Bordeaux a besoin de tel verre, un Champagne a besoin de telle coupe, etc. C'est pas, ce sont des rites, mais ces rites sont structurants et développent l'attention. L'attention. Boire à la bouteille, c'est la pire des choses. Quand je vois ces téléfilms américains ou aux États-Unis, on boit directement avec la canette. Non, c'est pas. Alors, un grand maître de la concentration, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de pleine conscience, en anglais mindfulness, c'est Montaigne. Pas seulement Christophe André, je dirais, il y a aussi Montaigne. Voici ce que dit Montaigne, Essai livre 3, chapitre 13. Me trouvais-je en quelque assiette tranquille, assiette, c'est état, dans quelque état tranquille. Y a-t-il quelque volupté qui me chatouille? Je ne la laisse pas friponner au sens. J'y associe mon âme, non pas pour s'y engager, mais pour s'y agréer. Non pas pour s'y perdre, mais pour s'y trouver. Et l'emploi de sa part à se mirer dans ce prospère état, à en peser et estimer le bonheur et amplifier. C'est un génie de la concentration, ça c'est ça l'état de pleine conscience. Voilà.
Alors, c'est merveilleusement dit.
Et oui, c'est très bien dit, c'est de l'ancien français. Enfin, mais c'est très bien écrit. Estimer le bonheur, en peser et estimer le bonheur et l'amplifier, c'est ce qu'on appelle une hyperbate. Donc, normalement, une chose banale serait en peser, estimer et amplifier le bonheur. Mais non, en peser et estimer le bonheur et l'amplifier. Donc, une disjonction. On met d'abord le complément et le deuxième verbe après. Du genre, Paul est venu et Pierre. C'est beaucoup plus beau que Paul et Pierre sont venus, vous voyez. Voilà, l'hyperbate, transgression, sauter par-dessus en grec. Alors, l'important, c'est la conscience aiguë et appliquée de toutes les sensations pour lesquelles il faut être dans une disposition d'accueil, accueillir. Voici ce que dit Montaigne dans le même passage. Il ne faut, à propos des sensations, il ne les faut ni suivre ni fuir, il les faut recevoir. Recevoir, voilà, recevoir les sensations. On trouverait des considérations comparables dans les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Et il y a un livre de Cooper Powys qui s'appelle L'apologie des sens, que je conseille aux auditeurs de lire, qui a cette même thématique, se concentrer sur les sensations, et ce livre est précisément dédié à l'intention de Jean-Jacques Rousseau. Dédié à Jean-Jacques Rousseau. Voilà, alors j'espère que ces leçons porteront leurs fruits et que l'on écoutera, par exemple, avec attention notre émission.
Et
surtout pas en pelant une pomme de terre, parce que sinon
pas.
On fera bien ni une chose ni une autre. Voyez. Voilà, rendez-vous à la prochaine émission.
Merci Michel, au revoir.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.